Voilà, chers amis auditeurs, découvrir, approfondir la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Marc, c'est tout de suite sur Radio Maria France. Nous allons retrouver tout de suite le Père Philippe de Maistre. Voilà, Père Philippe de Maistre, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, Père, on vous retrouve donc pour cette émission sur connaître la parole de Dieu à travers l'Évangile selon saint Marc.
Merci beaucoup, quelle joie de se pencher encore sur l'Évangile de saint Marc. Et c'est bien cet évangile qui nous a accompagnés pendant ce tridium pascal, puisque nous sommes dans l'année B. Par conséquent, nous avons eu le dimanche des rameaux, qui est aussi le dimanche de la Passion du Seigneur, la Passion selon saint Marc. Nous avons aussi eu l'entrée de Jésus à Jérusalem selon saint Marc, et nous avons eu le récit de la résurrection lors de la vigile pascale, là encore tiré de l'évangile de Marc. Eh bien, laissez-moi pour commencer vous relire l'évangile de l'annonce de la résurrection que nous avons entendu lors de la vigile pascale. Nous sommes au chapitre 16 de Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne craignez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Chers amis, ce récit de la résurrection nous conduit quand même déjà à resituer les événements tels qu'ils ont été vécus pendant le tridium. Vous avez sans doute eu la joie de suivre pas à pas Jésus pendant la Semaine Sainte, cette seule période de l'année liturgique où précisément le temps liturgique accompagne le timing de la vie du Christ. Nous sommes réunis le jeudi soir pour la Sainte Cène. Nous avons essayé d'épouser ce temps qui est celui du Christ. Nous l'avons accompagné au reposoir après la Sainte Cène. C'est-à-dire que nous l'avons suivi comme les apôtres ont suivi Jésus au jardin de Gethsémani. Nous avons peut-être prié dans la soirée en essayant de tenir à ses côtés dans la veillée, d'entendre cette plainte de Jésus. « Vous n'avez pas pu tenir une heure avec moi », dit-il aux trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, à qui il avait demandé de l'accompagner. Puis nous avons lu vers minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, le récit de l'arrestation à Gethsémani. Et puis le vendredi, par nos exercices spirituels, le chemin de croix peut-être à midi, à l'heure où le Christ a été crucifié, la célébration de la Passion à 15h ou plus tard, mais 15h c'est très opportun puisque c'est l'heure où Jésus a expiré sur la croix. Et ensuite nous avons vécu ce jour aliturgique qui est le samedi saint, ce jour où les églises sont dépouillées de toute décoration, les statues sont voilées depuis plusieurs jours déjà. En signe de deuil, le tabernacle est ouvert. Dieu est mort, donc l'Église marque ce deuil, cette absence, ce vide de la présence du Seigneur. Et puis, vous vous êtes réunis, alors peut-être compte tenu de la situation sanitaire, le dimanche matin très tôt. C'était une bonne opportunité de rejoindre Marie-Madeleine aux premières lueurs de l'aurore, ou alors vous avez vécu la vigile dans la nuit, du samedi au dimanche. Voilà, vous avez suivi pas à pas et vous êtes mis à l'école de Marc. Je voudrais revenir sur cette apparition. Alors pourquoi Marie-Madeleine d'abord vient au tombeau le premier jour de la semaine? Vous savez que Jésus est mort vers 15h, c'est saint Jean qui nous le dit, peu de temps avant que le soleil ne se couche et que commence la grande fête de la Pâque, qui cette année était aussi un jour de sabbat. Il était hors de question, selon la loi juive, que des corps restent crucifiés, qu'ils restent exposés sur la croix. Donc il fallait au plus vite décrocher le corps de Jésus. Et il s'en est fallu de peu en réalité que Jésus ne soit déposé dans une fosse commune, puisque la crucifixion est un supplice qui est réservé aux bandits, aux esclaves, à ceux qui ne sont pas considérés comme des humains à part entière. Donc la suite du châtiment, c'est qu'ils étaient jetés dans une fosse commune. Alors par l'évangile de Saint Jean, nous savons que Joseph d'Arimathie est intervenu, ce notable qui avait déjà creusé dans la roche son propre tombeau, qui avait déjà fait tailler ce suaire, ce grand linge de lin, qui rituellement devait envelopper son propre corps et qui l'a offert pour Jésus. Joseph d'Arimathie, avec Nicodème, prend l'initiative d'aller voir Pilate pour demander l'autorisation de recueillir le corps de Jésus et de l'enterrer dignement dans son propre tombeau. Mais vous comprenez que le timing est très serré. Si Jésus est mort vers 15 heures, peut-être qu'il a été décroché de la croix en début de soirée. Le soleil va se coucher rapidement, il faut que tout soit fait. Et on n'aura pas eu le temps, et Marie-Madeleine en particulier, qui participe à ce groupe qui a enveloppé le corps de Jésus, qui a procédé au rite funéraire, bien Marie-Madeleine n'a pas pu aller au bout de ce qui se fait dans cette tradition qui est très soigneuse pour l'accompagnement des morts. Il s'agit normalement de nettoyer le corps, il s'agit d'oindre le corps de myrrhe, il s'agit de le parfumer, il s'agit de prendre beaucoup de temps en réalité pour l'entourer avant de l'envelopper du linceul, d'attacher solidement les cordelettes à trois lieues du corps et de le déposer dans le tombeau. Tout cela a été fait à la va-vite. Il fallait que le tombeau soit fermé avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant le début de la fête de la Pâque juive, avant le début du Shabbat qui commence, comme vous le savez, comme toutes les fêtes juives, non pas au petit matin, mais la veille au soir, c'est-à-dire au coucher du soleil. Donc tout cela a été fait vite, et Marie-Madeleine est restée avec ses parfums, avec ses onguents. Et elle se doit, comme toutes les femmes, comme tous les hommes d'Israël, de revenir chez elle et de vivre ce temps du sabbat dans la prière, en s'abstenant de tout déplacement, de toute activité. Et elle attend le lever du jour, du premier jour de la semaine, de ce jour qui suit le sabbat, qui deviendra pour nous le dies domini, le jour du Seigneur. Et comme disaient les pères de l'Église, le jour du Seigneur est le Seigneur des jours, puisqu'il commémore pour nous la résurrection du Christ. Donc c'est à la fois le premier jour de la semaine suivante et le huitième jour de cette semaine qui s'est achevée par le sabbat. Marie-Madeleine attend le lever du soleil pour pouvoir aller au tombeau, pas seulement pour pleurer sur le corps de Jésus, mais pour terminer ce qu'elle n'a fait que commencer avec les autres femmes. C'est-à-dire qu'elle vient avec ses parfums, elle vient avec la myrrhe, et elle veut oindre le corps, elle veut l'honorer. Et la question qu'elle se pose, vous la connaissez, c'est qui nous soulèvera cette lourde pierre que deux ou trois hommes ne suffisaient pas forcément pour la déplacer. Elle constate que le tombeau a été ouvert, elle constate que le tombeau est vide, et curiosité de l'évangile de Marc, dont nous ne trouvons aucun équivalent chez les trois autres évangélistes, ni Luc, ni Matthieu, ni Jean ne nous parlent d'un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Les autres évangélistes vont nous parler d'anges. Chez saint Luc, il y a un ange à la tête et un ange aux pieds de l'emplacement où le corps de Jésus avait été déposé. Allusion évidemment à l'Arche d'Alliance avec les deux chérubins qui protégeaient le lieu de la présence sacrée. Eh bien, c'était une manière de dire que ce lieu est le lieu où a reposé la présence sacrée par excellence, puisque c'est le corps de Jésus dans lequel habite la divinité. Là, il n'est pas question d'ange, il n'est pas question d'un ou de deux anges, suivant les évangiles, il est question d'un jeune homme, ou plus précisément, il est question du jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Dans un entretien précédent, je vous avais mis ce jeune homme en lien avec un autre passage de Marc que nous avons entendu là aussi lors de la lecture de la Passion, le jour des rameaux. Il s'agit du chapitre 14 du même évangile. Nous sommes au moment où Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani. Simon-Pierre a suivi Jésus comme il pouvait. Simon-Pierre assiste à cette arrestation. Il cherche à protéger Jésus, comme il le fait souvent. Il sort son épée du fourreau et puis il se bat avec un des serviteurs des grands prêtres, Malchus, en lui coupant l'oreille. Et vous connaissez la suite. Jésus lui ordonne de rengainer son arme. Il guérit miraculeusement l'oreille de ce serviteur Malchus. Et puis s'ensuit une bagarre générale dans laquelle les disciples qui sont encore là se mêlent aux gardes, aux soldats. Et puis dans cette bagarre générale, il est question d'un jeune homme là encore. Ce sont les deux fois dans l'évangile de saint Marc que le mot « jeune homme » apparaît. Il y a ce jeune homme qui apparaît au tombeau, et il y a un jeune homme qui se bat, qui suivait Simon-Pierre, qui suivait Jésus. Je vous cite ce passage au chapitre 14 de saint Marc. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Or, et nous sommes au verset 51, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Qui est ce jeune homme qui se bat? Qui est ce jeune homme qu'on essaye de retenir et dont on ne saisit que le vêtement et qui s'enfuit tout nu en laissant son vêtement dans les mains de ceux qui étaient venus arrêter Jésus? Qui est ce jeune homme qui apparaît trois jours après, à la droite, assis à côté du tombeau, non plus nu, mais habillé d'un autre drap, non plus le drap qu'il avait abandonné au jardin de Gethsémani, mais un drap immaculé, un drap blanc, une aube blanche d'après certaines traductions. Eh bien, ce jeune homme qui s'est dépouillé dans le jardin de Gethsémani et qu'on retrouve à la droite du tombeau, beaucoup d'exégètes vont y voir Marc lui-même qui a signé son évangile de cette manière-là. Une manière de dire « j'étais bien témoin au mystère pascal, j'étais bien témoin de ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ, depuis l'arrestation jusqu'à la constatation du tombeau vide. Et j'ai été le premier à l'annoncer à Marie-Madeleine. » Alors il y a là une manière peut-être discrète, délicate, pudique de signer son évangile, une manière pudique aussi de dire qu'il était bien présent aux événements et donc qu'il est habilité, qu'il est un témoin privilégié de ces événements. Donc il a autorité pour témoigner d'eux. C'est un procédé qui est assez habituel, effectivement, dans les écrits de cette époque, et cette interprétation est assez probable. On parle à propos de Marc, on fait le rapprochement souvent avec cet autre Jean-Marc, Jean-Marc qui a été le disciple de Paul, dont il est question dans certaines de ses épîtres. Le même Jean-Marc aurait été le secrétaire particulier de Pierre. Ce n'est pas par hasard qu'il nous est dit qu'il s'échappe juste après que Pierre ait dégainé l'épée et que lui-même bien se soit caché derrière les arbres. Donc d'après la tradition, Marc est le secrétaire de Pierre, ou il est en tout cas un de ses disciples. Peut-être faisait-il partie des 70 qui s'ajoutent aux 12. Il y a plusieurs cercles concentriques autour de Jésus. Il y a les 12 apôtres, mais il y a aussi 70 disciples auxquels il est fait allusion, notamment dans l'évangile de Saint-Luc, lors de l'envoi en mission. Alors Marc ferait partie de ce cercle un peu plus large, et Marc serait dans l'ombre de Simon-Pierre. C'est effectivement très probable, mais cette interprétation n'en exclut pas une autre, plus théologique peut-être, plus spirituelle. Il est question d'un jeune homme, effectivement, qui se dépouille de ses habits dans cette forêt obscure de Gethsémani, cette forêt dans laquelle Jésus entre, dans laquelle il s'est engouffré dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette forêt qui est pour lui un lieu terrible, Gethsémani, le jardin des Oliviers. Ce jardin qui évoque un autre jardin, le jardin des origines. Ce jardin des origines qui était le jardin de l'Éden, c'est-à-dire le lieu de la communion paradisiaque de l'homme avec Dieu. le lieu où l'homme était nu devant Dieu sans en avoir honte. Il était dans une communion avec Dieu, une transparence à son égard. Et voilà que ce jardin de délices est devenu un jardin de cauchemar. Ce jardin est devenu une forêt obscure, une forêt avec des arbres derrière lesquels, et notamment l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam va cacher honteusement sa nudité. Vous connaissez ce passage. Dieu marche, Dieu s'approche dans le vent de la brise légère. Il cherche Adam, il ne le trouve plus. Adam s'est caché derrière l'arbre. Adam, où es-tu ? Je me suis caché parce que je suis nu. Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre que je t'avais interdit de consommer. Vous connaissez la suite. Adam se cache derrière l'arbre, il se cache derrière Ève. Il accuse Ève qui elle-même va se cacher derrière le serpent. C'est-à-dire que nous n'aurons de cesse depuis Adam et Ève que de cacher notre nudité de manière honteuse. Nous n'arrivons plus à nous montrer tels que nous sommes. Le thème de la nudité est très important dans la Bible. Il traverse toute la Bible, on pourrait faire une étude sur ce thème-là. La nudité, elle est signe d'innocence au début, comme un enfant qui n'a pas honte de se montrer tel qu'il est, un petit enfant, un petit nourrisson. Adam et Ève étaient nus dans le jardin sans avoir honte d'être exposés au regard de leur Créateur, au regard de leur Père. Ils étaient habillés, habillés de la grâce. Et voilà que par le péché, ils ont été dépouillés de cet habit de gloire qu'ils avaient. Et leur nudité devient douloureuse, leur nudité devient honteuse, ils se cachent. Eh bien ce jeune homme qui, dans la forêt de Gethsémani, dans ce bois de Gethsémani, se cache sa nudité, évoque évidemment la condition humaine. Il est un fils d'Adam, lui se cache comme Adam s'est caché, lui a conscience de son péché, lui a honte. Et il va se cacher derrière les arbres au moment où Jésus prend sur lui le péché de l'humanité. Et ce drap dont il est dépouillé, eh bien, on pourrait voir derrière un symbole très profond. J'ai eu la joie, comme dans beaucoup de paroisses, de célébrer des baptêmes dans la nuit de Pâques. Et évidemment, on ne le fait plus avec le même déploiement de symboles qu'on le faisait peut-être dans les premiers temps du christianisme. Celui qui recevait le baptême dans la nuit de Pâques, l'adulte, devait se mettre nu, il devait se dépouiller de ses vêtements. Au seuil du baptistère, au seuil de cette fontaine baptismale, au moment où il allait descendre et se plonger tout entier dans l'eau, en descendant trois marches, les trois marches évoquant évidemment les trois jours qui séparent la mort du Christ de sa résurrection, c'est-à-dire que le baptisé se dépouille du vieil homme, dira saint Paul, de celui qui est à l'image d'Adam, le vieil homme avec ses convoitises, avec son péché, le vieil homme qui cache sa nudité derrière l'arbre, le vieil homme qui se cache derrière des habits, des masques, nous pourrions dire, c'est tout le thème du carnaval, vous savez, le carnaval, je me cache derrière un masque pour cacher mon identité véritable, parce que je n'ose plus me dévoiler, me montrer tel que je suis à Dieu. Eh bien, le baptisé va enlever cet habit qui lui donne une certaine reconnaissance sociale, mais qui voile son identité véritable. Cet habit qui recouvre aussi sa honte. Eh bien, il s'en dépouille. C'est le même mouvement que nous faisons à chaque fois que nous reconnaissons notre péché. À chaque fois que nous allons nous confesser, d'une certaine manière, nous nous mettons à nu sous le regard de Dieu. Eh bien, ce jeune homme se dépouille de ses habits. Il reconnaît son péché. Il descend dans la fontaine baptismale. Vous l'avez compris, le jeune homme dont il est question dans cet évangile évoque le catéchumène, celui qui va plonger dans la piscine baptismale, dans la fontaine du baptistère. Et c'est ce même jeune homme qui va en sortir ruisselant d'eau et qui va être aussitôt sorti du baptistère, recouvert de l'aube blanche, du drap blanc, qui symbolise, qui représente évidemment l'être nouveau. Il a revêtu le Christ, comme nous le disons, comme saint Paul le dira, et comme des chants très beaux nous le disent. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Eh bien, le baptisé revêt cet habit blanc. Nous devrions tous venir à la messe si nous sommes baptisés endimanché, comme on disait autrefois, c'est-à-dire habillés de blanc, pour rappeler notre baptême, pour rappeler cette dignité que nous avons reçue, en étant assimilé, en étant plongé mystiquement, mais réellement, par le baptême, dans la mort et la résurrection du Christ. Vous l'avez compris, ce jeune homme dont il est question dans l'Évangile, eh bien, représente au fond le plus grand témoin de la résurrection du Christ que nous puissions avoir au XXIe siècle. Vous n'avez pas eu la chance, dans la nuit de Pâques, de voir Jésus lui-même vous apparaître avec sa barbe, son grand sourire et son imposante stature telle qu'elle se laisse deviner, par exemple, de manière ombragée sur le linceul de Turin. Vous n'avez pas vu Jésus en personne, mais vous avez vu, eh bien, des jeunes gens, des jeunes femmes, des adultes, être plongés dans l'eau, être dévêtus de leur ancien habit. Dans beaucoup de lieux, ils arrivent habillés de violet en signe de pénitence et ils vont déposer cette écharpe violette ou cette cape violette juste avant d'être plongés dans l'eau ou de recevoir l'eau sur le front. Et ensuite, ils vont recevoir cet habit nouveau. Donc ce que vous avez vu dans la nuit de Pâques, ça n'est pas le Christ lui-même, c'est le Christ vivant dans celui qui est mort à son péché pour ressusciter à la vie. Vous avez vu des témoins privilégiés qui sont ceux qui sont passés par la mort pour ressusciter avec le Christ par le baptême. Le grand témoignage de la résurrection du Christ, la grande preuve, si j'ose dire, c'est le baptême, c'est la conversion. Et à chaque fois que nous revivons, que nous reprenons conscience de notre baptême, à chaque fois que nous nous replongeons dans notre baptême, en réalité, eh bien, le mystère se reproduit. Le mystère se reproduit, le mystère de notre dépouillement du vieil homme. Nous sommes mis à nu, nous passons par la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Dans la tradition évangélique, vous savez, on dit qu'on est un « born again » ou un « reborn ». Le baptême, la conversion, est un événement de mort à notre vie passée pour ressusciter et pour naître de nouveau, pour vivre à une vie nouvelle. Nous sommes engendrés à cette vie nouvelle avec le Christ. Et bien voilà le témoignage que nous renvoie ce jeune homme qui apparaît revêtu d'un drap. Je vous relis ce passage de la résurrection qui est très émouvant parce que ce jeune homme n'est pas seul dans le tombeau. Dans le tombeau, il attend celle qui se pressait à la porte du tombeau, à savoir Marie-Madeleine. Alors il y a un très beau rapprochement à faire entre ce jeune homme et puis cette femme. Les deux, finalement, ont éprouvé dans leur vie la honte. Vous savez que d'après la tradition, Marie-Madeleine, qui est l'apôtre des apôtres, qui est celle à laquelle, celle que choisit Jésus pour lui apparaître, celle qui sera la première à constater le vide du tombeau, à rencontrer en chair et en os le Christ ressuscité, eh bien, cette rencontre entre cette femme, Marie-Madeleine, qui d'après la tradition est une prostituée, dont Jésus a chassé sept démons. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a été exposée publiquement à la honte, de sa vie passée, à la honte de tout ce qu'elle portait en elle. Elle a été, elle aussi, dépouillée de beaucoup de choses. Et elle a été mise comme à nu devant tous. Et c'est la même qui va être rétablie dans une dignité nouvelle, qui va être le témoin, je vous le disais tout à l'heure, l'apôtre des apôtres. C'est une très belle expression. Et à ce sujet, je fais une parenthèse, il est permis de regretter que dans le calendrier des fêtes liturgiques, dans l'Église catholique, elle ne soit pas honorée au moins au même niveau que les apôtres, et que ce soit encore une mémoire facultative, la fête de Sainte-Marie-Madeleine le 22 juillet. Voilà, vous avez le droit d'envoyer une lettre au pape Jean-Paul II en demandant qu'elle soit honorée à sa juste place, l'apôtre des apôtres. Et bien voilà que cet apôtre des apôtres rencontre un jeune homme qui lui-même a connu aussi l'humiliation d'être mis à nu dans le jardin de Gethsémani, l'humiliation de partir tout nu devant tout le monde, l'humiliation publique de son péché. Et il fallait peut-être que ce jeune homme ait connu cette humiliation pour vivre profondément le mystère pascal. Et il fallait que Marie-Madeleine soit descendue jusque-là dans l'humiliation qu'on lui connaît pour qu'elle puisse recueillir ce témoignage. Et je trouve personnellement qu'il y a quelque chose de très émouvant dans la rencontre de ce jeune homme qui est rétabli dans sa dignité après avoir connu la fuite, la honte de la nudité, et cette femme qui, elle aussi, a connu cette humiliation liée à sa condition, à son passé, à son péché. Toujours est-il qu'il y a dans cette rencontre, voyez, quelque chose de très grand, dans lequel l'un et l'autre se confortent dans la joie, sont comme rétablis, rétablis dans leur dignité, celle d'être les témoins du Christ ressuscité, celle de savoir que le péché qui pesait sur leurs épaules et qui était symbolisé par l'habit dont ils ont été dévêtus, eh bien ce péché, Jésus l'a pris sur lui. Il a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a revêtu cette lourde cape. Et nous pourrions faire un lien entre ce drap dont Jésus est dévêtu à Gethsémani et l'autre drap dont, ce drap dont le jeune homme, excusez-moi, a été dévêtu à Gethsémani et l'autre drap dont Jésus va être revêtu, cette cape rouge, cette cape pourpre dont les soldats vont revêtir Jésus sur sa chair à vif, celle qu'il a été mis dessus pour se moquer de lui, pour le ridiculiser, en plus de la couronne d'épines, en plus du sceptre qui n'est qu'un roseau, ironiquement. Eh bien, cette lourde cape, ce lourd manteau pourpre de la couleur du sang, ce lourd manteau, c'est celui dont s'est dépouillé le jeune homme. C'est tout le poids du péché de l'humanité que Jésus prend sur lui. Je me permets un petit témoignage personnel. Le jour de mon ordination diaconale puis sacerdotale, eh bien j'ai revêtu un manteau nouveau, la chasuble, une chasuble rouge pourpre sang ce jour-là, puisque c'était la fête des apôtres Pierre et Paul, dont mon prêtre parrain m'avait revêtu. Et la première sensation que j'ai eue, c'est le poids de cet habit. Ce poids qui pesait sur mes épaules me faisait penser que quelque chose de ce fardeau que Jésus a pris sur lui lorsqu'il est entré dans sa passion, il a pris sur lui nos fardeaux, il a pris sur lui nos péchés, et il nous en a libérés, il nous en a allégés. Eh bien ce manteau, ce drap dont a été dévêtu Marc, eh bien il passe sur les épaules de Jésus dans sa passion. Et ce drap, eh bien, il va être déposé à la croix. Là aussi, Jésus va vivre ce moment ultime, dans cette nudité totale. On a peine à se représenter, vous savez que certains exégètes certains historiens pensent qu'effectivement le Christ était totalement nu sur la croix, ce que notre pudeur a un peu de mal à imaginer. Il est dans une position d'exposition totale. Il n'est pas caché derrière l'arbre du jardin, il est exposé sur l'arbre de la croix. Il ne se cache pas comme Adam, il ne se cache pas comme le jeune homme, comme Marc, derrière l'arbre. Lui, justement, expose ou laisse sa nudité exposée sur l'arbre de la croix. Il y aurait là encore beaucoup de choses à développer sur cette thématique de cet arbre mort qui est la croix qui va donner la vie. Contrairement à l'arbre des origines, l'arbre de vie qui va donner la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui va donner la mort, celui des origines et derrière lequel Adam et Ève se sont cachés. Jésus ne se cache pas, il fait bouclier, si j'ose dire, il est exposé au gibet de la croix et il expose sa nudité au Père, à l'humanité, et ce faisant, il se donne tout entier lui-même. Se donne tout entier lui-même pour nous revêtir de cette gloire dont il a été dépouillé à la croix. Voyez, il y a tout un jeu sur lequel on pourrait qu'on pourrait développer à l'infini de ce mouvement de se dépouiller, de se dévêtir pour être revêtu. Un manteau qui passe des épaules du jeune homme sur les épaules meurtries de Jésus, qui lui-même va être à nouveau mis à nu sur la croix pour nous donner cet habit de lumière qui est celui que le jeune homme a revêtu au matin de Pâques. Il y a quelque chose de très beau dans cet échange mystérieux. Jésus a pris sur lui le fardeau de l'humanité pour l'en libérer et il a fait ce merveilleux échange qui est déjà célébré par la liturgie, notamment dans la nuit de Noël. Il est question d'un merveilleux échange où Jésus prend sur lui notre humanité avec tout ce qui... la marque, le péché, pour nous donner en échange sa divinité et sa sainteté. Cet échange mystérieux qui se réalise déjà dans l'incarnation et qui se réalise jusqu'au bout dans la passion du Christ et sa résurrection. Eh bien, c'est cet échange que nous voyons dans la personne du jeune homme. Je vous propose, pour clore cette méditation, de rendre grâce tout simplement. Je ne sais pas si vous le faites, mais est-ce que vous remerciez Dieu régulièrement pour votre baptême? Est-ce que vous connaissez la date de votre baptême? Vous qui avez été baptisé très jeune, peut-être nourrisson, vous faites votre anniversaire tous les ans, l'anniversaire de votre naissance. Est-ce que vous fêtez le jour de votre baptême? Est-ce que tous les ans vous demandez peut-être une messe à votre intention, une messe d'action de grâce pour le plus grand don qui vous était fait par Dieu après celui de la vie, qui est celui du baptême, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. Ce jour où Jésus a pris sur lui le fardeau de cette humanité marquée par le péché originel. Il l'a pris sur lui et il vous a donné en échange cet habit de gloire, cet habit immaculé que l'on voit sur les épaules du jeune homme de l'évangile de saint Marc. Bien, je vous propose de rendre grâce pour le baptême, pour cette immense grâce du baptême. Vous n'aurez pas trop de ce temps pascal qui, je vous rappelle, dure 50 jours, c'est-à-dire 10 jours de plus que les 40 jours du carême. Nous avons eu 40 jours pour nous dévêtir de l'homme ancien. C'est tout le sens de la conversion du temps du carême. Mais nous n'avons pas fini notre chemin. Malheureusement, trop de chrétiens, après les 40 jours du carême, s'arrêtent et pensent que le jour de Pâques suffit. Et nous avons 50 jours encore de conversion. Il y a une conversion spécifique au temps pascal. Si le temps, la conversion du temps du carême consistait à se dévêtir de l'homme ancien, eh bien la conversion du temps pascal consiste à se revêtir ou à se laisser revêtir de l'homme nouveau. C'est-à-dire d'entrer pleinement dans la joie de notre baptême, d'accueillir pleinement cette identité nouvelle. Et à ce sujet, on pourrait regretter que beaucoup de chrétiens sont capables de nommer leurs péchés. Au fond, ils sont capables de nommer le vieil homme qu'ils ont dévêtu, qui a été mis à mort au tombeau avec le Christ. Êtes-vous capable de nommer l'homme nouveau, la femme nouvelle que vous êtes? Un autre passage de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, cette grande vision de la gloire du ciel avec toutes sortes d'hommes et de femmes, une foule innombrable qui apparaît au voyant de l'Apocalypse, sans doute Saint Jean. Et ce dialogue entre le voyant et puis l'un des vieillards qui présente cette assemblée sainte. Chapitre 7, verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont blanchi leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Il y a cette question que l'un des vieillards de l'Apocalypse pose aux voyants. Qui sont ces jeunes gens, ces hommes, ces femmes qui sont revêtus de robes blanches et qui se présentent triomphalement devant la face de Dieu? Réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est la tribulation que le Christ a vécue en leur nom, c'est-à-dire le passage par la mort et la résurrection du Christ. Je cite encore, ils ont blanchi leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ce manteau que Jésus a revêtu, c'est le sang de l'agneau qui a coulé sur l'humanité pour qu'elle soit purifiée et pour qu'elle soit en échange revêtue de cette robe blanche immaculée. Nous sommes, chacun d'entre nous, eh bien, l'une de ces personnes dans cette foule de gens rachetés par Dieu. Et chacune est appelée par son nom, ce nom de gloire. Alors je vous disais tout à l'heure, il est important que nous célébrions notre nouvelle identité en Christ. Trop souvent, nous continuons à vivre pendant le temps de Pâques ce que nous devions vivre pendant le temps du carême, c'est-à-dire mourir au vieil homme. Maintenant, il n'est plus question d'entretenir ce vieil homme en le rappelant à notre mémoire. Maintenant, nous devons célébrer l'homme, la femme nouvelle que nous sommes dans le Christ. Nous devons célébrer cette identité nouvelle. Nous devons célébrer cette vie qui nous a été donnée. Alors moi, je vous propose un petit exercice, c'est que vous prenez une belle aube blanche, puis vous vous regardez dans la glace, et puis vous louez Dieu. Vous louez Dieu pour ce qu'il a fait de vous. Vous louez Dieu pour le don du baptême. Vous louez Dieu pour la nouveauté de vie dont vous avez été revêtu. Et puis pourquoi ne pas, de temps en temps, marquer le coup quand vous allez à la messe le dimanche? Eh bien, reprendre cette tradition qui n'était pas si ridicule, finalement, de s'endimancher, c'est-à-dire de s'habiller de propre, de beauté, de se faire beau pour le dimanche, voire dans certains lieux, de s'habiller en blanc, pour rappeler cet habit du baptême que nous avons reçu, cet habit que le jour du mariage, la mariée va revêtir, pour rappeler à son bien-aimé qu'elle a été revêtue de cette robe nuptiale, que la première alliance qu'il a marquée, avant cette alliance du mariage avec son conjoint, est une alliance nuptiale, baptismale, avec Dieu, pour que son époux la regarde avec les yeux de Dieu, la regarde avec cette lumière qui est celle de l'amour dont Dieu a fait preuve à son égard en Jésus. Entrez pleinement dans votre nouvelle identité. Asseyez-vous à droite du tombeau du Christ. Faites resplendir cette lumière que votre habit blanc reçu au baptême manifeste. Soyez bénis.
Merci beaucoup, Père. Merci infiniment. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci.